Ta parole, c'est notre véritable nourriture et qui nous donne la force d'aller toujours de l'avant. Sois béni Seigneur, sois loué Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous bénissons encore une fois le Seigneur qui nous permet en ces jours d'arriver ici encore une fois, le troisième jour de notre séminaire, en prévision du baptême, sous le thème « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face ». En fait, bien-aimés, nous sommes en train de parler d'Exode chapitre 20, le verset 3, car c'est celui-là notre verset de la semaine. « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. » C'est la parole qui sort de la bouche de Dieu. En lisant ce passage, c'est Dieu qui donne la directive à son peuple. Celui qui décide d'établir une alliance avec le peuple d'Israël. Il s'est choisi ce peuple, il l'a soutenu de son propre gré, de l'Égypte jusqu'à Canaan. Et tout ceci dans sa pleine souveraineté et surtout dans les plans de l'histoire du salut. Le Seigneur nous a créés. Celui qui connaît la ligne du salut sur laquelle il nous place. Et si je peux le répéter à d'autres termes, l'alliance, l'accord ou la convention que nous avons avec Dieu, c'est comme une responsabilité entre le roi et les vassaux, comme c'était le cas dans les Proche-Orient anciens. Mais aussi dans l'Europe féodale, mais aussi en Afrique, nous avons toujours des relations entre les rois et les vassaux. Si j'ai une montagne ou une colline, je te donne 10 mètres sur 50, quand tu vas récolter, tu dois me donner ce qu'on appelle la redevance, parce que je t'ai donné un pied de terre où tu peux trouver de la nourriture. Cette relation-là, c'est celle que Dieu a faite. Ici, il y a cette relation, elle est inégale, car il y a un boss et un autre qui est un peu en dessous. Alors, Dieu qui s'est engagé dans l'alliance avec ce peuple, et surtout le peuple d'Israël, lui, il a fait tout pour tenir ses promesses. Dieu fait tout pour être fidèle à ses promesses, et il exige de son peuple le même engagement. Mais comme nous sommes toujours des créatures, il nous est toujours difficile de tenir ces engagements-là. Pour que le peuple puisse réussir à vivre l'engagement qu'il a avec Dieu, le peuple doit apprendre l'obéissance exclusive au Seigneur qui les libère. Le peuple doit apprendre la manière juste d'adorer Dieu et de le distinguer des idoles. Le peuple doit apprendre à vivre l'amour entre les membres de la communauté parce que c'est maintenant la communauté des gens qui sont libérés, la communauté des gens qui sont rachetés. La vie que nous menons aujourd'hui et surtout en RDC, plonge plusieurs croyants à renier leur marche avec Dieu. Ils peuvent renier leur marche volontairement ou involontairement. C'est très facile, c'est très connu. Nous les connaissons très bien que ce n'est pas facile de gagner sa vie aujourd'hui. C'est ce qui se retrouve souvent sur la langue de chacun de nous, que ce n'est pas facile de gagner la vie. Mais nous devons nous rappeler que le Seigneur avait dit que nous allons manger à la sueur de notre front. Alors, si le Seigneur nous avait dit que nous devons manger à la sueur de nos fronts, est-ce que cela nous permet de passer par tous les chemins possibles et disponibles devant nous? Un adage dit « Tout chemin mène à Rome ». Est-ce que cela signifie que tout chemin mène aussi à Dieu? Est-ce que cela signifie que nous pouvons faire tout ce que nous pouvons pour arriver à Dieu? Est-ce que nous connaissons la grandeur de ce Dieu qui nous a sauvés et qui a fait de nous ses enfants? Lorsque nous marchons avec le Seigneur, est-ce que nous nous souvenons de ces Écritures qui déclarent qu'il y aura un jour redoutable, le jour du jugement, pour chaque acte que nous avons posé? En RDC, nous gagnons. Il y a des gens qui se sont déjà donné le luxe de gagner sans fatigue. Et cette attitude-là de vouloir gagner sans fatigue plonge plusieurs dans des pratiques occultes, dans la magie, dans le kidnapping. Il y a des gens, vous le voyez dans leurs voitures, des luxes, vous les enviez. Et vous pensez que le Seigneur vous a créé pour accompagner les autres. Mais vous ne savez pas si celui-là a kidnappé combien de personnes pour acheter ce véhicule. Vous enviez le méchant. Il y a d'autres, par la recherche des gains, ils plongent dans l'adoration des excellences. Dans notre République, nous savons vraiment utiliser ces mots-là. Son excellence, Monsieur le Premier ministre, Son Excellence, Monsieur le Gouverneur, Son Excellence, Monsieur le Chef de quartier. Et en RDC, il suffit d'être chef d'avenue, 10 militaires vont venir derrière vous, parce que vous êtes excellence. Le mot excellence, normalement, signifie qu'il y a eu un bon travail, qui est visible à l'œil. Mais nous n'avons rien vu, nous disons excellence. Tous les enseignements que nous sommes en train de suivre, nous les suivons pour que nous qui sommes chrétiens, nous puissions connaître ou savoir qui est Dieu et ses qualités. Même dans le monde ecclésiastique, il y a d'autres qui ont divinisé aussi les serviteurs de Dieu. Il y a des pasteurs, il y a des serviteurs de Dieu qui se laissent. Ils se laissent adorer aussi. Mais aussi, les membres, les fidèles non avisés ou moins avisés, adorent. Et vous oubliez que le Seigneur dit, « Maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. » Nous voudrions que nous puissions comprendre pourquoi adorer est seul Dieu qui est véritable. Nous voudrions nous amener, nous tous, à faire totalement confiance à Dieu. Mais aussi comprendre que Dieu est miséricordieux, malgré sa face redoutable. En fait, si je peux vous rappeler, je ne sais pas si je l'ai déjà dit ici, dans l'Ancien Testament, lorsque la Bible parle de la face de Dieu, le mot « face de Dieu » est toujours écrit au pluriel. En français, on peut traduire par « la face ». Mais quand on écrit en hébreu, on écrit « panim ». Les mots en hébreu qui finissent avec « im », c'est ça le « s » que nous mettons pour le français. Mais en hébreu, c'est « im ». Alors, quand on dit « panim », ça veut dire les faces. Alors, lorsqu'on veut parler de la face de Dieu, ce mot-là est toujours au pluriel. Ce qui signifie que le Dieu que nous suivons, Dieu que nous adorons, c'est un Dieu multiface. C'est un Dieu multiface. Et d'ailleurs, moi, je me dis, quelquefois, nous prions. Quand vous constatez qu'il y a et ça ne va pas dans votre vie, Il y a des fois que ça vous arrive et vous dites à cause Mungu amenigeuzia mugongo. Moi je vous dis, au lieu que le Seigneur, c'est très important que le Seigneur akugeuzie mugongo. Parce que lorsque il te montre son dos, il va mettre sa main derrière pour que tu puisses avancer en le suivant. Mais lorsque tu veux qu'il te montre sa face, vous allez vous cogner, non? Et qui parmi nous peut avoir la force de cogner Dieu? C'est très important que le Seigneur soit devant nous pour que nous puissions marcher selon ses pas. Et donc, lorsque vous priez, dites au Seigneur de marcher au-devant de vous pour que vous marchiez derrière lui. Parce qu'avec ça, vous allez marcher dans un même chemin. Et donc, tous les enseignements que nous sommes en train de suivre ici, nous n'avons pas l'objectif de vous révolter contre Dieu. Mais notre objectif, c'est que vous sachiez quel est ce Dieu auquel vous avez souscrit. C'est Dieu-là qui vous a sauvé par sa miséricorde. Mais à côté de cette miséricorde, à côté de cet amour, vous devez savoir qu'il y a aussi les jugements. Il y a aussi les jugements. Nous allons prendre nos Bibles en Genèse chapitre 11. Genèse chapitre 11. Le premier verset jusqu'au 9e. Genèse 11 est à 9. Nous allons aussi lire Actes des Apôtres 2, 5 à 12. Je vais lire. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéar et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, « Allons, faisons des briques et cuissons-les au feu. » Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, « Allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont les sommets touchent au ciel et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. » L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, « Voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et cela, c'est ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons et la confondons. » Je recommence le verset 7. « Allons, descendons, et là, confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. » Et l'Éternel le dispersa loin de là, sur la face de toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre. Et c'est de là que l'Éternel le dispersa sur la face de toute la terre. Actes des Apôtres, chapitre 2, le verset 5 à 12. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut, la multitude accourut. Et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Et ils se disaient les uns aux autres, « Voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue? À chacun, dans notre langue maternelle, Parthe, Mède, Élamite, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine des Cyrènes, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? » ils étaient tous dans l'étonnement. Et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, « Que veut dire ceci ?» Parole du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, ce soir, nous voulons parler ou continuer avec notre sujet intitulé « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face ». Et le sujet de ce jour, c'est Dieu dans les actions humaines, la tour de Babel. Nous voulons parler de sa signification symbolique. Dieu dans les actions humaines, la tour de Babel, sa signification symbolique. Dieu vient de créer, le péché vient d'entrer, Dieu vient de chasser l'homme, Dieu vient de prononcer sa sentence, les hommes se multiplient et après les hommes étonnent Dieu de façon qu'il arrive à se repentir d'avoir créé l'homme. Il amène le déluge pour exterminer la terre. Au chapitre 9, nous l'avons dit hier, le Seigneur Dieu, le Dieu de la création, il a pris une nouvelle alliance avec Noé. Ce qui signifie que, après le déluge, la population sur toute la terre, les gens étaient au nombre de 8, selon la Bible. Le couple de Noé et les 3 couples de ses fils. Parce que tous les autres venaient de périr dans le déluge. Le Seigneur permet que le peuple encore se multiplie. Parce qu'il a repris les mêmes paroles qu'il avait prononcées à Adam et Ève. Il a dit, soyez féconds, remplissez la terre. Les gens venaient d'être encore très nombreux. Et après maintenant la colère du déluge et l'épisode de l'arche de Noé, Dieu a conclu l'alliance avec ces hommes-là. Quand Dieu les invite à se multiplier et de remplir toute la terre, le peuplement s'est fait. Les gens deviennent très nombreux. Et lorsqu'ils sont très nombreux, mais la Bible dit qu'ils ne parlaient qu'une seule langue. Ces gens-là ne parlaient qu'une seule langue. Et la Bible a dit, à un moment donné, ils ont eu une idée. L'idée est venue de dire, nous devons construire une ville et une tour. Voici l'objectif de cette tour. Éviter leur dispersion sur le globe. Pendant que Dieu a dit, multipliez-vous, remplissez la terre. Leur objectif, c'est éviter leur dispersion sur le globe. Deuxième objectif, pour se faire un nom. Oui, pour se faire un nom. Cela signifie qu'ils viennent encore de rentrer dans le même péché d'Adam. Le péché où ils ne voient pas la prééminence de Dieu, mais ils se voient eux-mêmes. Ils veulent être au centre. Ils veulent créer quelque chose qui sera au centre. Et la Bible a dit, une tour dont le sommet touche au ciel. Comme le déluge a fait de ravages, le déluge a été même au-dessus de toutes les montagnes. Oui, Mungu anataka tucheze, ce que nous devons faire, nous devons construire, aller jusqu'à son trône. Nous devons aller jusqu'à son trône et nous faire un nom. Il pouvait quand même dire et faire un nom à Dieu. Mais ils disent et nous faire un nom pour que toute personne, où qu'elle soit à mesure de voir ces gens-là, nous sommes en train de nous donner des noms aussi. C'est-à-dire, la tour est censée être le nouveau centre de l'humanité. Ça va être le centre de l'humanité. Ça va permettre aux humains de former un seul peuple qui va continuer à parler une seule langue et qui porte un seul nom. Ce qui est plus étonnant, le Tout-Puissant, le Créateur, cette démarche ne le plaît pas. Nous, quand nous connaissons Dieu, nous savons que Dieu est un. Et lorsque nous prions, nous voulons que nous soyons un comme les personnes de la Trinité sont un. Nous voulons marcher de même pas. Nous voulons avoir une même ligne de conduite. Nous voulons suivre le Seigneur. Mais la démarche de ces gens ici, qui veulent être un seul peuple, les gens qui veulent s'attendre, mais le Seigneur dit, Moutaneona, le Seigneur a décidé de confondre les langages et de disperser les hommes loin de la terre. Le Seigneur, lorsqu'il a parlé, il doit faire tout pour que ce qui est sorti de sa bouche puisse se réaliser. Même si vous pouvez faire semblant d'esquiver ce que le Seigneur a voulu que vous fassiez, il va vous avoir. D'une manière ou d'une autre, il va vous avoir. Une parenthèse. Pour que l'Évangile puisse nous atteindre ici, il a fallu qu'il y ait une persécution. Les disciples ont fait avancer l'Évangile à cause de la persécution. Lorsqu'ils veulent parler de Christ ici, on les attrape parce qu'ils sont en train de parler de Christ. Ils ne parlent pas du roi. On attrape ceux-là qu'on va attraper et les autres qui seront très rapides, ils vont fuir. Lorsqu'ils fuient, là où ils arrivent, le Seigneur leur donne encore la force de continuer. Ils prêchent. Et là, la persécution revient encore. Ils partent et c'est comme ça qu'est l'Évangile. C'est pourquoi même les pères de l'Église avaient dit, le sang des martyrs, c'est la semence de l'Évangile. Il a fallu que ces gens-là soient martyrs pour que l'Évangile aille de l'avant. S'ils ne pouvaient pas trouver quelqu'un qui les amène ailleurs, ils resteraient à Jérusalem et l'Évangile ne nous arriverait pas ici. Et donc le Seigneur que nous adorons, quand il a un objectif, peu importe la voie par laquelle il va suivre, l'essentiel, c'est qu'il atteigne son objectif. Et si c'est avec toi qu'il a choisi atteindre cet objectif, passe. Il faut avoir un gros cœur de marcher avec lui. Alors, pourquoi Dieu rejette-t-il cette construction humaine? Comment nous pouvons interpréter la tour de Babel dans la Bible? Et aussi, quel parallèle peut-on établir avec notre civilisation actuelle? Parce que aussi, nous sommes dans ce monde avec le développement de la technologie. Ici, nous voulons parler de la signification symbolique de la tour de Babel. Quand les hommes construisent une tour pour des raisons de rester ensemble, sans être dispersés, ils vont à l'encontre de la volonté de Dieu. Ça, j'avais déjà dit, parce que la volonté de Dieu, c'était de remplir toute la terre. Ce n'était pas de construire une ville et laisser les autres espaces sur la terre. On devait remplir la terre. Alors, soucieux, ces hommes-là étaient soucieux d'éviter leur dispersion. Ils décident de créer une ville capitale autour d'une tour. Je l'ai dit, cette tour-là apparaît comme un nouveau centre de l'humanité. Le centre du monde, le centre de l'univers. C'est la raison pour laquelle ils ont décidé de dire, même si Dieu pouvait envoyer un deuxième déluge, ça ne va pas nous atteindre parce que notre tour touche au ciel. Ils sont à une conquête du ciel, ces hommes-là. Ils veulent ériger leur loi au ciel. Ils s'approprient les domaines céleste, ils créent, à d'autres termes, leur propre loi. Ce qui signifie qu'ils prennent la place de Dieu, comme Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Alors, au lieu de s'unir autour de la loi divine, les hommes-là se rassemblent autour d'une construction matérielle. Ils se rassemblent autour d'un axe du monde qui est artificiel. Cet axe matériel conçu selon leurs propres règles de la vie. Cette manière d'être de ces hommes-là montre l'incapacité de l'homme à reconnaître la prééminence. Et donc, depuis la création jusqu'à même à ce moment-là, ils avaient la difficulté de reconnaître la prééminence de Dieu. Ce qui signifie que la tour de Babel symbolise l'ignorance ou bien l'orgueil que les hommes ont. La tour de Babel, elle est l'expression même du péché. C'est l'expression du péché, pourquoi? Parce que les hommes là, ils viennent de renier l'alliance qu'ils ont eue avec le Seigneur. C'est l'expression du péché, pourquoi? Parce qu'ils vénèrent un symbole qui est artificiel, eux-mêmes le font pour se faire un nom. Ils se sont rendus coupables des tentatives de l'homme d'usurper les qualités divines. Lorsqu'ils ont pensé à construire, éviter leur expansion et se faire un nom. C'est un désir irrationnel de puissance qui a été doublé d'arrogance. Et lorsque l'arrogance arrive, lorsque l'irrationnel arrive, ce qui va venir après, ça sera la chute. Ça sera la chute. Pourquoi la chute? Cette tour de Babel ici a quelque chose de monstrueux. C'est un monstre qui est là. Les hommes l'ont construite pour qu'il y trouve la vie. C'était une tour qui a des dimensions gigantesques. Au lieu qu'il trouve la vie dans cette tour, comme l'objectif qu'ils se sont enseignés les dit, cette tour-là les a écrasés. La tour les a écrasés. Les hommes sont toujours incapables de comprendre que seul le respect de la loi divine peut mener à la liberté, au bonheur et à l'épanouissement. C'est la raison pour laquelle l'homme est capable de créer une société de violence, une société de souffrance, une société où lui-même, il se soumet à lui-même. Quand l'homme cherche à se soumettre à lui-même, à ses pensées, il crée une société de violence. Parlons un peu de la nature du châtiment de Dieu. Dieu a réagi. Il ne s'était pas tué. Et sa réaction, c'était de disperser les hommes. Comme il venait de décider tantôt qu'il ne peut plus exterminer les hommes par les déluges, le Seigneur décide de les disperser. Il les disperse de quelle manière? Il fait en sorte qu'ils ne puissent pas s'entendre. Il amène une confusion. Les gens n'ont pas la possibilité de se comprendre. Dieu sème la confusion et la discorde. Je me suis posé une question ici. Parce que lorsque Dieu permet, quand il permet aux gens de ne pas se comprendre, ça veut dire qu'il vient aussi destituer une guerre parmi les gens. Il vient destituer des conflits qui vont naître. Les conflits naissent lorsque on ne parvient pas à se comprendre. Tu ne comprends pas ce que l'autre dit, tu ne comprends pas son idée, tu veux qu'il comprenne la tienne. Et il y a des gens qui n'ont pas de réserve, pour eux, les mains fonctionnent facilement. Lorsque vous n'adhérez pas à sa vision, il utilise sa main. Aujourd'hui, la main, ça peut être la main, ça peut être des lances, ça peut être des fusils, ça peut être des chars de combat. Parce que les gens ne se sont pas entendus. L'Éternel a amené ces langues-là. Il suffit que même je trouve quelqu'un qui a ma langue maternelle. Nous parlons en langue maternelle. En présence de l'autre qui ne comprend rien, il va se fâcher. Et la guerre commence par là. Ils savent que je ne comprends pas cette langue-là. Nous devons savoir que c'est que les gens de Babel ou de Babylone ont fait. Ils ont voulu faire une société où chacun croit avoir raison. Chacun se prend comme
un être absolu.
Mais lorsque le Seigneur permet aux gens-là de se disperser, il permet que cette tour-là n'arrive pas à sa destination. C'est aussi pour les sauver. Parce qu'il sait que si je vous permets d'arriver jusqu'à votre destination, c'est encore pour votre extermination. Au lieu de que vous ne soyez exterminés, je vous disperse et je mets différentes langues. Ces hommes-là, ils voulaient éviter l'expansion. Mais malheureusement pour eux, c'est ce qu'ils ont obtenu. Lorsque vous façonnez quelque chose en concurrence avec Dieu, vous allez obtenir ce dont vous avez peur. Vous allez obtenir le contraire lorsque vous marchez de cette manière-là. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons savoir que la grâce et la bonté de Dieu n'ont jamais effacé sa face de juge et de juste. Oui, le Seigneur est bon. Oui, le Seigneur a la grâce. Oui, le Seigneur est miséricordieux. Mais lorsque vous marchez dans cette miséricorde, si en un moment donné vous voulez prendre sa place, pour que, au lieu que la gloire revienne au Seigneur, mais la gloire te revienne, tu en auras pour ton compte. Parce que le Seigneur ne dort pas. Très jaloux, il ne peut jamais permettre qu'il y ait un petit autre Dieu à côté de lui. Une parenthèse, dans la Bible, les mots Babylone, Babel, Babylone, ce sont des mots qui ont une même racine. Quand vous trouvez Babylone dans la Bible, l'Apocalypse des Jean, les mots-là, c'est une ville qui représente la perversion de l'homme qui se crée un faux Dieu, païen à son image. Babylone, c'est une cité où règne à mettre les passions et les instincts de domination et de luxure. Les gens qui veulent le luxe. Lorsque Babylone devient splendide, luxuriante, pour se faire un nom, il ne peut que s'effondrer, il ne peut que disparaître, parce qu'il est bâti sur des valeurs matérielles. Dans la Bible, si vous lisez Apocalypse, vous trouverez que Babylone, c'est l'antithèse de la Jérusalem céleste ou du paradis. Babylone la grande. Dans le monde spirituel, si vous cherchez Babylone, ne cherchez pas Babylone ailleurs que dans votre cœur qui n'accepte pas la présence de Dieu. Parlons un peu du parallèle maintenant avec la civilisation actuelle, le développement de la technologie. La tour de Babel évoque un centre matériel. Les habitants du monde doivent s'y soumettre pour ce qui est de la tour de Babel. Ils doivent s'y soumettre. Aujourd'hui, dans notre manière d'être, la façon dont l'homme est en train de fonctionner aujourd'hui, le monde est fondé sur un système économique individualiste, le matérialisme, l'exploitation même. Aujourd'hui, nous connaissons un développement hors sol, un développement extraordinaire. Et notre manière d'être aujourd'hui, nous sommes axés sur les villes. Vous savez pourquoi les rebelles, ils n'attaquent pas souvent facilement les villes. Ils attaquent toujours les périphéries. Parce que aussi, l'État connaît que si les rebelles prennent la ville, c'est une honte extraordinaire. Ils mettent beaucoup plus d'accent sur la sécurité dans la ville. Parce qu'en ville, il y a les centres d'intérêt. Il y a les centres du développement. C'est en ville où se trace la politique qui va se jouer, qui va se jouer à l'extérieur de la ville. La vie spirituelle passe au second plan. L'homme aujourd'hui se considère comme le seul maître de la nature et des éléments, de tout ce qui peut être. À partir même de la colonisation, le monde, il y a les Occidentaux qui sont venus coloniser ici. Peut-être qu'ils ne peuvent plus construire la tour de Babel, mais ce qu'ils sont en train de faire, c'est la tour de Babel. Nous sommes une paroisse francophone, Gomaville. Ma mère ne connaît pas le français, mais ils sont venus nous imposer cette langue ici. Pour que le monde entier puisse se retrouver un dans cette langue. Aujourd'hui, c'est peut-être le français et l'anglais. Et l'anglais est en train de vouloir prendre aussi la prééminence. Pour que nous tous au monde, nous puissions être un, et pour que les Anglais puissent se faire un nom. Nous devons savoir que ce n'est pas mauvais, mais les dérives de notre civilisation annoncent aussi sa chute prochaine. Peut-être que les changements climatiques que nous sommes en train de voir, c'est le second déluge, parce que nous n'avons pas mis Dieu au centre. Avec la technologie et toutes les industries qui sont en train d'exterminer l'oxygène, et ça amène la désertification. Peut-être le Seigneur est en train de dire le déluge est là. Les gens de ce monde, ils se donnent des noms. Ils ne s'inquiètent pas de la volonté de Dieu. L'essentiel est qu'ils aient des noms. Ils sont entrés aussi même de concurrencer le ciel. La science évolue. La science évolue. Aujourd'hui, il y a le clonage. Il y a des robots qu'on peut créer. Aujourd'hui, il peut y avoir des personnes qui sont créées ou qui sont fabriquées. Ils n'ont pas de conscience, mais ils sont fabriqués de façon que on peut les envoyer telle part pour une guerre. Ils vont tout dévaster parce qu'ils n'ont pas de conscience humaine. Tout ça, c'est pour que l'homme puisse se faire un nom. Et c'est très dangereux. C'est très dangereux. Oui, la technologie est bonne. Parce que même en ce moment ici, il y a les gens en Allemagne, en Australie, qui sont en train de me suivre. Et là, c'est très bien. Mais lorsque on l'utilise pour faire le mal, pour amener la violence sur la terre, ça devient autre chose. Et l'Éternel, il est là. Il est là avec son épée de jugement. Bien-aimé dans le Seigneur, en conclusion, pour ce que nous sommes en train de dire ce soir, en construisant la tour de Babel, l'homme pense pouvoir s'affranchir de Dieu. Il pense être libre de Dieu. Il pense que quand il va atteindre un tel niveau, Dieu ne sera plus en mesure de dire un mot par rapport à lui. De même, il croit pouvoir échapper au châtiment divin parce qu'il veut construire toute une tour assez haute pour qu'il ne soit pas menacé par les eaux du nouveau déluge. Les nations aujourd'hui sont en train de se construire de fortes armées. Ils mettent leur confiance dans ces armées-là. Je le répète, Jérémie 17:5 dit, « Maudit soit l'homme qui met sa confiance dans l'homme. » Quelqu'un qui refuse de reconnaître la grandeur de Dieu. Oui, le Seigneur, on l'appelle l'Éternel des armées. Si on appelle le Seigneur l'Éternel des armées, ça veut dire ce ne sont pas dans les armées où nous devons mettre notre confiance, mais nous devons mettre notre confiance à l'Éternel qui va diriger les armées. Et les armées qui vont combattre avec l'Éternel, avec l'appui du Tout-Puissant, ils vont être victorieuses. Quand on veut se construire la tour de Babel, pour atteindre Dieu, pour être comme Dieu, c'est un déséquilibre que vous vous amenez vous-même. Et donc, vous vous amenez vous-même dans votre chute,
et dans votre effondrement.
La tour de Babel, c'est un symbole de pire illusion qui annonce une société de contrôle, une société sans âme, une société sans amour, une société sans avenir. Et là, l'homme se trouve écrasé par un monstre de technicité qu'il a lui-même créé. Si la tour de Babel, là, a été inventée par les hommes, il n'y a que ces hommes-là qui ont subi les conséquences de cette tour de Babel. Toutes ces armes qui sont en train d'être fabriquées aujourd'hui au monde, hautasikia kaseme ilienda mbinguni ikaua malaika moye. C'est toujours nous qui les fabriquons qui serons victimes de ces armes-là. Il y a des armes qu'on appelle Satan 1, Satan 2, vous les connaissez. Ces armes-là, on peut fabriquer une arme et vous-même vous dites, bon, ok, ça c'est notre tour, personne ne peut plus. Parce qu'avec cette arme-là, nous fabriquons notre tour, nous fabriquons notre protection. Mais lorsque cette arme-là sera lancée, toi aussi tu vas devenir victime. C'est la folie humaine. C'est la folie humaine. Ce qui signifie qu'en tant que faux centre, la tour cache une confusion spirituelle qui se traduit directement par la violence, la souffrance et la discorde permanente. L'histoire de la tour de Babel nous montre ce qu'il ne faut pas faire lorsqu'on entreprend un projet. Lorsque nous bâtissons l'église, lorsque nous bâtissons même nos pays en Afrique, nous devons veiller à ce que notre unité ne soit pas basée sur une grande idée et sur l'envie d'être reconnu, mais plutôt sur le désir d'édifier cette communauté idéale voulue par Dieu. Dieu a mis une communauté et il veut que nous puissions l'édifier jusqu'à ce que la communauté reconnaisse la prééminence de Dieu. Nous ne pouvons pas faire quelque chose parce que nous sommes Gomaville. Il y a des gens qui peuvent se dire, non. Si il y a Gomaville, il y a tout qui est là, il y a tout. Vous voulez vous faire un nom. Oui. Vous voulez vous faire un nom. Travaillons sur nous-mêmes pour que tout ce que nous allons faire puisse glorifier le Seigneur. Le seul vrai Dieu. Le redoutable, le souverain, celui qui a voulu que nous soyons là. La face du jugement de Dieu, c'est que Dieu n'est jamais en cours de solution. Il n'est jamais en cours. Quand il a un problème, il a toujours la solution. Quand il a eu un problème au jardin d'Éden, sa solution était de chasser Adam et Ève. Quand il a eu un problème avec les gens de l'époque de Noé, sa solution était d'ouvrir le ciel pour que la pluie tombe. Quand il a eu un problème avec les hommes d'après Noé, sa solution c'était de les disperser. Et maintenant, qui sait ce qu'il peut encore faire aujourd'hui à ceux qui sont en train de s'opposer à lui? Aujourd'hui, il y a des gens qui s'opposent à Dieu. Qui sait quelle solution le Seigneur va amener? Personne ne le sait. Celui qui sait la solution qu'il va amener à un problème, si vous décidez de vous opposer à lui. Voilà pourquoi il est important d'être son ami. Au lieu de se positionner comme contraire à sa volonté, il faut chercher à être son ami pour que vous puissiez marcher ensemble. Parce que si vous marchez ensemble, vous ne serez pas la cible de sa solution. Lorsqu'il y a un problème qui vient de toi et qui ne plaît pas à Dieu, Dieu trouvera une solution. Mais si tu deviens son ami, tu vas marcher avec lui sans problème. Et il a trouvé une solution. Il a envoyé son Fils unique pour qu'en lui, nous puissions marcher ensemble avec lui. Ce qui signifie que
Ces gens ici qui ont été dispersés sur la surface de la terre, ils vont trouver leur union en Jésus-Christ. C'est pourquoi dans le Nouveau Testament, le jour de la Pentecôte, ces gens-là qui ne s'étaient plus attendus à cause de la tour, à cause du fait qu'ils ont voulu se faire un nom, s'ils croient au nom de Jésus-Christ, ils vont encore s'attendre. Par le Saint-Esprit, ce jour-là, nous avons lu la Bible a dit, il y avait des gens de la Croatie, il y avait des gens de la Mésopotamie, il y avait. Tous ces gens-là, par la fusion du Saint-Esprit, par la force du Saint-Esprit, ils ont su s'attendre. Celui-ci a parlé Kinyarwanda, celui-ci a parlé Kinande, celui-ci a parlé Marche, celui-ci a parlé quoi, et tous se sont attendus. C'est le miracle du Saint-Esprit. Et donc, lorsque nous marchons avec le Seigneur, lorsque celui qui a un nom dans notre vie, nous nous attendons, nous allons nous attendre sans problème. Nous allons marcher ensemble sans problème. Et le Seigneur sera glorifié en nous. Le Seigneur sera glorifié en nous. Son nom sera glorifié parce que nous lui avons donné cet espace-là de la glorification. Bien-aimés dans le Seigneur, je vais vous demander de vous mettre debout pour que nous puissions prier le Seigneur. Peut-être que tu t'es déjà construit une tour. Tu t'es construit une tour qui t'empêche de glorifier le Seigneur comme il est. C'est le moment que tu puisses dire à Dieu de te pardonner. Dis à Dieu de ne pas te permettre que cette tour arrive au ciel. Tu as un orgueil sans pareil, très orgueilleux dans la chorale, très orgueilleux dans le ministère, très orgueilleux dans nos lieux professionnels. Nous nous construisons des tours. Et tout ce que nous faisons, nous voulons que ce soit notre nom qui sera visible. Nous oublions que c'est Dieu-là qui nous rend capables, celui dont le nom doit être visible. Chacun de nous pense à sa vie.